Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, Chef-lieu-Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
Après avoir parlé de l'intégration de la gare d'Austerlitz et de la BNF dans leur environnement urbain, notre traversée de l'avenue de France s'achève aujourd'hui dans le quartier des Grands Moulins, à la frontière entre le 13e arrondissement et la Petite Couronne.
Nous nous trouvons plus précisément dans l'université Paris 7 Diderot, dans le bâtiment des Grands Moulins, ancienne minoterie industrielle qui a été rénovée et réhabilitée au début des années 2000.
Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Pascal Diby, ethnologue et auteur notamment du Village métamorphosé Révolution dans la France profonde, paru aux éditions Terre humaine Plon en 2006. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous de nous accueillir aujourd'hui pour cette émission qui abordera à la fois des questions de reconversion, reconstruction, d'innovation architecturale et spatiale et de la notion de quartier à toutes les échelles.
Mais avant tout, est-ce que vous pourriez d'abord, première question comme ça, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement Paris 7, peut-être le nombre d'étudiants, nous présenter un peu cette université ?
Donc l'université Paris 7 s'est établie effectivement sur la rive gauche, à la sortie de Paris, dans cette ZAC qu'on appelle d'ailleurs par principe PRG, c'est-à-dire Paris rive gauche. Et là, il y a un ensemble de 7 bâtiments qui sont disséminés, dans le fond, disséminés et proches en même temps, mais enfin, on passe de l'un à l'autre, avec l'idée de Porzamparc, effectivement, qui voulait bâtir une université rue, au sens où il voulait un espace qui soit traversé et par les habitants et les utilisateurs du quartier, et par les étudiants, sans se rendre compte très bien que ce que c'était qu'une université quand même. Parce que entre le service culture et mon bureau, j'ai minimum 10 minutes à un quart d'heure de chemin. Idem quand on fait des cours d'ailleurs, ça veut dire aussi se déplacer. On a centré tous les cours dans la halle aux farines, l'ex-halle aux farines. Donc on a conservé quand même des vestiges, au moins nominaux de cette ancienne archéologie qui était cet espace des Grands Moulins de Paris. Donc l'administration, la présidence, un certain nombre de départements sont inscrits directement dans les bâtiments des Grands Moulins de Paris qui ont été transformés en espace universitaire.
Parce qu'il y a eu le projet de Christian de Porzamparc.
Oui, de Porzamparc.
Et puis ensuite celui de Rudy Ricciotti, qui lui a repris en fait les Grands Moulins et qui a, lui, voulu conserver vraiment l'ensemble du bâti, c'est-à-dire de préserver la coquille, mais tout en réhabilitant complètement l'intérieur. Et alors, comment il a réussi à justement mettre une université dans une minoterie industrielle ?
Il n'a pas réussi du tout. C'est assez marrant parce qu'il y a les architectes qui conçoivent des choses, il y a les universitaires qui vivent des choses, et comme d'habitude, le projet s'est fait un peu à l'envers. C'est pas une critique au sens profond du terme que je dis, simplement dans la construction, au sens réalisation d'un espace, je pense qu'il aurait été pas mal quand même de savoir ce que c'est exactement que d'être universitaire, d'être à la fois enseignant et à la fois étudiant. Et moi, je constate que c'est quand même un espace qui est fait pour que les étudiants circulent au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui passent par là et qui ne repassent plus par là, dans le sens où on leur demande d'être présents au cours, mais que vite, ils disparaissent comme des volets de moineaux dans l'espace et qu'on ne les voit plus. Mmh. Et c'est un gros problème pour la vie, effectivement, des étudiants ici, comme de celle des professeurs. Je pense qu'on a commencé par la fin, c'est-à-dire qu'il aurait fallu commencer par la création d'un foyer étudiant et peut-être même d'une salle des profs. Les étudiants n'ont aucun espace où s'installer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chaise, il n'y a pas un fauteuil, il n'y a pas un endroit où se poser. C'est du béton partout. Et donc on constate, mais c'est aujourd'hui une habitude qui semble présentée comme une habitude de jeunes, mais je crois que c'est une habitude par manque, c'est-à-dire qu'ils s'assoient par terre sur le béton froid. et qu'ils attendent effectivement le cours suivant de façon très inconfortable. J'avais pensé qu'être étudiant, c'était échanger effectivement avec les profs, mais pour avoir les profs et pouvoir les atteindre, et pour nous atteindre, nous sommes inatteignables, non pas par notre immense culture, mais par notre position géographique. On est arrivé à cette aberration où, en fait, on ne peut, nous sommes badgés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre mon bureau si on n'est pas autorisé par la sécurité à monter dans les étages. C'est absurde. L'enseignement, c'est aussi de la pédagogie. La pédagogie, c'est une ouverture constante à l'autre. Et le fait d'être à l'université, c'est parce qu'en fait, on a envie d'être avec les étudiants. Mais il y a un vrai problème de communication qui est lié aussi à cette architecture qui n'a pas été en pensée en fonction de ce que c'est justement que le partage du savoir et ce que c'est que cet accompagnement complètement informel ou cet enseignement socratique auquel ont toujours correspondu les enseignements universitaires. Donc c'est là où il y a une rupture effectivement totale par rapport à d'autres lieux universitaires dans lesquels j'ai enseigné, soit des espaces plus restreints, plus petits, donc on est beaucoup plus proche et atteignable constamment, aussi bien par des élèves de premier cycle, première année, que par des doctorants.
Et donc vous pensez que finalement la philosophie du quartier, de cette rénovation du quartier qui a été quand même l'îlot vert, finalement manque un peu son but dans la volonté de réunir des personnes?
C'est-à-dire que c'est très compliqué parce que ce quartier en construction a une ambition, c'est d'être la pointe de Paris et une expression de modernité. Donc il s'inscrit plus dans un futur 22e siècle, je dirais, que dans un 20e passé. Et le 21e, c'est le moment un petit peu de l'essai où en fait on est partagé entre la magnificence et l'utilité, populaire. Mais je ne pense pas que PRG sera jamais populaire. Ça peut pas. Ça peut pas parce que ce qui est en train de se construire autour de la station F du côté de la gare d'Austerlitz, Fraissinet, donc ça va être des hôtels de luxe, même si on dit que ça va être des hôtels écologiques, etc. C'est magnifique, ça va être des jardins suspendus, mais absolument inatteignables par le quidam d'ici. Et on est dans un monde où aujourd'hui le style et la représentation est fondamental. Donc on a créé une zone toute neuve dans Paris, ce qu'on voulait faire un quartier. Mais ce quartier, il faut se rendre compte aussi qu'il est un quartier, je dirais, non vécu. Au sens où on est dans le 13e arrondissement. De l'autre côté du chemin de fer, depuis la gare d'Austerlitz jusqu'à Ivry, de l'autre côté, donc on est sur une sortie de ville. Et en même temps, il y a cet espace très intimidant qui a été construit par des architectes contemporains. Et il se trouve que j'ai fait des études sur les gens du 13e intérieur, c'est-à-dire de la rue Chevaleret, où c'est encore le vieux 13e. Et ils m'ont tous dit, mais nous, on ne peut pas venir dans le quartier. D'abord, on ne sait pas comment s'y faire. Et puis, c'est très bizarre, cet endroit où tout se reflète. Et l'idée, effectivement, qu'un espace n'est que le reflet de celui qui passe, ce n'est pas ça une ville. Une ville, c'est la présence inscrite de quelqu'un qui peut s'arrêter sans être vu ou au contraire en partageant. Et là, c'est la grande critique des usagers, si vous voulez, du 13e. Et je pense que le quartier en pâtit dans la mesure où ça sera, à mon avis, jamais vraiment un quartier. Parce que le quartier, il est défini par son architecture. Or, un quartier ne se définissait pas par l'architecture. On ne vit pas, là, j'ai l'impression d'être à Cologne ou d'être, je ne sais où, dans un Brésilien raté ou dans un... Il y a un vrai problème d'espace, si vous voulez. Alors ça va se faire, mais en tout cas par rapport à la conception architecturale et à la réalité vécue des deux, je crois qu'il y a un hiatus. C'est pour ça, est-ce qu'on peut parler de quartier? Ça peut être des espaces résidentiels qui sont complètement différents. Un espace résidentiel, c'est un espace fermé, réservé et je dirais contrôlé. Mais un quartier, c'était justement un espace qui attirait pour son ambiance. Et donc, moi, c'est une question que je pose à l'architecture. J'ai pas de réponse là-dessus.
Oui, donc voilà, en effet, comme vous l'avez dit, il y a de nombreux projets architecturaux, Réinventer Paris, il y a beaucoup d'innovations et tout ça. Et donc, vous pensez voilà, ça manque peut-être aussi un objectif social donc,
Non, parce qu'il y a en même temps Réinventer Paris et ce que fait la CEMAPA, elle est plutôt très, très vigilante sur ce qui se passe, et elle a raison, mais c'est très difficile parce que je disais tout à l'heure, il y a un espace énorme entre le désir de faire quelque chose et la réalité de l'habitat, et il va se produire des choses auxquelles on n'aura pas pensé. Je sais pas, par exemple, c'est un quartier qui est assez marrant parce que effectivement, il y a si je prends comme ça du côté de la station de bus qui est vers le Voir Masséna, là. Vous avez à la fois un hôtel bon, qui est quand même assez cher, un appart-hôtel, et puis en même temps, vous avez Armée du Salut en face, en même temps, vous avez des foyers africains, en même temps, vous avez, je sais pas, des grands groupes qui ont leur siège social ici. Donc c'est un espèce de télescopage, mais la réalité fait que les gens qui sont dans la rue, c'est des étudiants, les 26 000 étudiants qui tournent autour de la fac, c'est le foyer, effectivement, des Africains du côté de l'INALCO, où là, il y a encore une autre population. Et puis, c'est les gens exclus qui finissent à l'Armée du Salut ou qui essayent d'y rentrer ou d'y être, etc.
Ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette, ce boulmiche qu'a de la ligne en automne, ces sandwichs qui s'alignent monotone, quartier latin. Quartier latin, quartier latin.
Quand on a travaillé sur justement cette ZAC, on a souvent entendu et entendu de nouveau l'expression de nouveau quartier latin.
Il oui, faut s'accrocher.
Alors,
non, ça c'est l'ambition, parce qu'effectivement...
C'est l'ambition d'accueillir justement un quartier de 26 000 étudiants. De dire...
Oui, bon, ils ne sont pas là tout le temps ensemble, mais enfin, disons que dans la journée, c'est un quartier qui est plutôt sympa, plutôt agréable, sauf que vous n'avez pas les petits bistrots, vous n'avez pas des petits restaurants, vous n'avez pas d'espace où on puisse accueillir des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc pour l'instant, c'est une réalité actuelle, ça peut changer, ça peut bouger, mais je sais que les loyers sont très chers. Donc si les loyers sont très chers, il ne peut pas y avoir de petits bistrots, c'est une évidence. Et le nouveau quartier latin, j'ai quand même des doutes, parce que justement, ce qui faisait le charme du quartier latin, c'était le fait qu'on pouvait habiter l'espace de façon pas très chère. Alors là, il y a quand même, sur le 13e arrondissement, un bon millier d'étudiants qui sont logés, donc ça, c'est quelque chose de formidable. Et je pense que les logements sociaux sont accessibles, et le soir, si vous allez là sur l'esplanade devant la fac, effectivement, c'est pas la même population que dans la journée, qu'une population étudiante. Et le soir, c'est plus une population, je dirais, de gens, effectivement, des logements sociaux qui ressortent et qui vont jouer là sur la place.
Ben justement, vous avez beaucoup travaillé sur le village,
oui.
Plus dans les espaces ruraux,
oui.
Donc le village métamorphosé, donc aux éditions Plomb. Et justement, ici, si on change d'échelle et qu'on dépasse peut-être le quartier des Grands Moulins, et qu'on essaie de prendre peut-être la ZAC Paris-Rive-Gauche dans son ensemble, donc de la gare de Sterlitz à ici, est-ce que selon vous il y a peut-être un village rue, peut-être même autour de l'avenue de France? Est-ce qu'il y a des similitudes avec les espaces ruraux ou peut-être pas du tout?
Non, je pense pas justement. Enfin, ça serait bien qu'il se passe ça, mais je n'ai vraiment pas ce sentiment-là du tout. Et moi je pense effectivement que l'idée même de quartier, qui est une idée en fait très urbaine, mais au sens urbanité, c'est-à-dire vivre avec l'autre, elle est en train d'être remplacée par l'idée de citadin. Et le citadin, c'est déjà la smart city, dans laquelle on vit avec beaucoup d'avantages et de facilités, et que la vie sera bien, ou est bien en ville quand elle est facile. Donc ça veut dire que la relation à l'espace va être complètement différente.
Mais alors, pour finir, si on va encore à une échelle encore plus petite.
Oui.
On a avec des ouvrages dans le quartier de Brunzo,
oui.
On a le pont Charles de Gaulle, la passerelle Simone de Beauvoir. Finalement, on a une volonté d'effacer un petit peu ces frontières, qu'elles soient physiques ou mentales, d'intégrer finalement le quartier au quartier environnant.
Vous avez raison, c'est à mon avis, on vit en ce moment ce que les gens ont dû vivre à l'époque de la création des boulevards, qui ont été construits sur les défenses de Paris, qui ont été arasées, et c'est devenu un espace de promenade. Ben là, on est en train d'essayer d'occuper ce no man's land entre Paris et Ivry, et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est-à-dire comment on va repousser les limites de Paris, parce qu'elles sont inscrites à l'intérieur de notre expérience personnelle. En changeant de génération, ça va sans doute changer les bornes aussi. Mais ce qui m'amuse, c'est le moment où on n'aura plus le sentiment d'être à Ivry. C'est-à-dire, pour moi, les portes de Paris, elles sont ici. C'est à Masséna. D'ailleurs, le bus s'appelle Porte de France. Hein. Donc, on est en train de quitter la France pour rentrer ailleurs. La grande question que je me pose aujourd'hui, c'est comment on va habiter les tours. Ça, c'est-à-dire que la ville va pousser en hauteur de plus en plus, puisqu'il y a de moins en moins d'espace. Oui. On va se réserver des espaces pour circuler. Et comment est-ce qu'on vit en hauteur? Ça, c'est une... Je sais pas comment font les Qataris pour vivre dans leur tour.
Il peut y avoir de nouveau, justement, une, peut-être la recréation d'un quartier.
Alors justement, c'est peut-être ça, la vie d'une tour. Ouais. Parce que la vie d'une tour, tout y est. Vous avez tout, la buanderie, la piscine, les magasins. Enfin, je vois un peu au Brésil comment ils vivent dans des tours. Je ne sais pas comment on y vit à New York du tout, mais ça veut dire que ça va coûter extrêmement cher. Parce que c'est qui va pouvoir vivre dans une tour. Donc ça veut dire que c'est une toute nouvelle façon d'habiter. Et là, je ne peux pas savoir comment ça va se passer. Je crois que c'est très difficile justement aujourd'hui de penser la ville qui coûte de plus en plus cher dans sa construction, qui attire de plus en plus de monde dans sa réalité et qui, dans son habitation, si je puis dire, dans sa façon d'habiter, fait qu'on repousse, on repousse, on repousse, on repousse de plus en plus ceux qui auraient bien aimé vivre en ville, par exemple, et qui vivent toujours aux franges. Donc c'est une frange encore repoussée, si je puis dire. Mais ça sera sans doute... un mélange plus important de cultures différentes jusqu'à ce que les cultures se résorbent pour ne faire plus qu'une seule culture urbaine qui est une culture de mobilité et de... je sais pas quoi... Et de,
la oui, citadinité.
De, oui, la citadinité et pas l'urbanité, ce qui n'est pas la même chose.
Voilà. Ok. Eh ben, très bien. Merci beaucoup,
Monsieur
Dibi. Donc on aura rendez-vous, la prochaine émission, ce sera le 8 mars, c'est ça?
C'est ça. Mars.
Pour une autre interview exclusive aussi. Mais plus carcéral cette fois.
Voilà.